Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Au Libre, bonjour, bienvenue sur Fréquencier 87.9 FM. Aujourd'hui, on se retrouve après un été chaud autour du studio, avec aujourd'hui bien beaucoup de monde, de nouvelles têtes aussi, donc c'est sympa d'accueillir des nouvelles personnes dans cette émission. On va commencer honneur aux dames d'abord. Mouni, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Alors, il faut que tu te rapproches du micro.
Ah oui, voilà. Oui, parce que là, on est en radio.
Exactement.
Alors déjà, tu peux relever un peu ton micro.
Il faut que je relève.
Voilà, comme ça. Alors, pas dans le nez, dans la bouche.
On commence par la cuisine avant la salle de restauration.
Voilà, on commence comme ça, voilà.
Eh bien, écoutez, ça va très bien et je suis tout à fait enchantée d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est une nouvelle expérience.
Donc, une nouvelle vie commence.
Voilà, une nouvelle vie commence.
Alors aussi dans le studio, Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Emmanuel qui est assistant d'éducation à la cité scolaire, plus spécialement détaché à la radio avec les collégiens. Donc voilà, donc quelqu'un que vous entendrez peut-être aussi le midi avec les collégiens à la radio. Et puis bonjour François.
François. Salut Franck, je croyais que tu allais continuer dans l'ordre.
Oh, oui,
j'attendais que ce soit Christian, j'étais surpris.
Oui, oui,
bonjour à tous, ravi de.
Non, mais c'est pour vous réveiller donc.
C'est pour vérifier si tu suivais.
Voilà. C'est l'heure de la sieste.
Eric aussi.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour Eric, et puis bonjour Christian, voilà.
Et ben bonjour à tous.
Voilà, bienvenue dans cette nouvelle saison de Micro Libre. On va commencer doucement aujourd'hui avec. On va parler de l'humour, on parlera aussi des champignons. Et on terminera par quelque chose qu'on connaît déjà dans ces politiques, enfin dans cette émission, puisque c'est la rubrique C'est politique. On trouvera un petit sujet, quelqu'un lancera un truc. C'est pas ce qui manque aujourd'hui, la politique.
C'est une émission entière, non ?
C'est une émission entière. Les champignons, est-ce que c'est politique ? Ça, je sais pas. On verra tout à l'heure. Mais tout de suite, comme d'habitude, on retrouve les brèves du hérisson avec François.
Alan.
Les brèves du hérisson.
Alan. Eh bien, chers érinacéidophiles, bonjour.
C'est quoi ça ?
Petit cadeau pour la rentrée, ce nom de baptême, dont je dois le reconnaître, j'ai préparé l'énonciation avec un peu de coquetterie et pas mal de répétition. Oui, oui, les hérissons étant de la famille des érinacéidés, comme les vaches sont les représentantes de la famille des bovidés.
C'est plus facile.
Les amis des hérissons que, je l'espère, vous êtes... sont donc, je le répète, vous verrez avec un peu d'entraînement, ça vient tout seul, des érinacéidophiles. Et ce n'est pas plus difficile que Super Fragilistique Expiali Dodicius, que vous connaissez tous.
Bien entendu. Bah,
évidemment. Bien entendu. C'est une maladie.
La période des vacances a été, donc, chers amis du Hérisson, la période des vacances a été fertile en événements méritant commentaires. Du mondial de foot aux vacances de Monsieur Hulot, lassé d'être condamné à la fricassée quotidienne de couleuvres, en passant par la piscine de Brégançon à 32 500 euros que notre président a finalement déclaré ne pas aimer autant que les bains de mer, les sujets de brocardage n'ont pas manqué et le tri a été compliqué. Allez, à tout seigneur, tout honneur, avant que l'affaire ne soit étouffée ou dépassée par une actualité sans cesse renouvelée, l'histoire du dénommé Benalla.
Ah.
Vous avez dû en entendre parler,
petit peu, à peine.
Rappelons que celui qui apparaît tout de même comme un individu peu recommandable est finalement en réalité un bienfaiteur des citoyens. N'écoutant que son courage, il est allé porter main forte à une douzaine de CRS assaillis par deux féroces terroristes munis de slogans. Rappelons aussi que celui qui apparaît comme chargé de mission au service de l'implantation d'une police élyséenne parallèle bénéficiait d'un salaire de 7700 euros brut mensuel.
C'est juste.
D'une voiture avec chauffeur, d'un appartement de fonction.
Non, en aide, c'est beaucoup.
Le pauvre.
Rappelons enfin, dans l'attente de la suite, que cet individu s'est permis d'insulter le Sénat. Quoi qu'on pense de cette institution, elle n'en est pas moins l'émanation du peuple, fût-ce son degré, au second degré. Et le coup de fil de Macron à Larcher, le président du Sénat, ajoute encore au trouble de cette affaire. Est-ce l'Élysée qui contrôle le Sénat ou le contraire, comme tout citoyen pourrait l'imaginer?
Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Au bobo, Léon.
Deuxième bref, François.
On ne badine pas avec l'alcool en Angleterre.
Oui.
Hugo Lloris, notre valeureux gardien de but des Bleus, qui nous a valu, qui a fait vraiment tout ce qu'il a pu
pas
pour
que
un
de
résultat
l'air dans Hugo,
très correct, et en plus qui a vraiment joué comme un dieu, il faut le reconnaître, et c'est quelqu'un qui n'est pas un fanatique du football qu'il dit, a été condamné avant-hier à 20 mois de suspension de permis et 50 000 livres, environ 56 000 euros, d'amende, selon l'AFP. Le gardien de but français avait été interpellé le 24 août dernier en état d'ébriété au volant de sa voiture. Une Porsche, hein, quand même.
Petite voiture, oui.
C'est pas ma Twingo.
Ouais, c'est un mois de travail.
Pour qui ?
Pour un footballeur.
Ah, comme tu en es loin, Eric. Si tu savais, je suis désolé, je vais tout à l'heure t'apporter des informations différentes. Il aurait également brûlé un feu rouge, tant qu'il y était. Avec une Porsche, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait au feu. C'est quand même d'une mesquinerie incroyable. Le champion du monde a plaidé coupable lors de l'audience. Son taux d'alcoolémie était de 0,8 mg par litre d'air expiré, alors que le taux maximum autorisé au Royaume-Uni est de 0,35 mg par litre d'air expiré. Soit 0,7 mg par litre de sang. Rappelons qu'en France, la législation est encore plus rigoureuse, puisque le taux maxi d'alcool par litre d'air expiré est 0,25, soit les deux tiers de ce qui est permis en Angleterre, ce qui veut dire que quand on veut se pinter, il vaut mieux aller le faire en Angleterre plutôt que rester en France. Pour essayer de se consoler, on peut estimer que le code français est moins dur quand même, parce qu'entre 0,5 et 0,8 grammes par litre de sang, tout à l'heure j'ai dit milligrammes, c'était un lapsus, on s'en tire avec une amende de 135 euros, mais 6 points de moins sur le permis. À noter tout de même que si le montant de son amende apparaît important, Lloris, bénéficiant à Tottenham d'un salaire de 13 000 euros par semaine.
Aïe, il a pris la Porsche avec toutes les options.
À mon avis, oui, il y avait sûrement la roue de secours et le volant montant et descendant.
La boîte à gants était
gardée. La douleur au portefeuille est moins aiguë et il pourra se payer le taxi sans trop de problèmes.
Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon.
Troisième rêve.
Action patrimoine.
Ah.
Je lisais dans une parution sur le net, très orientée à droite, le souhait que les actions, on va dire destinées au bien public, soient mises, comme aux USA évidemment, entre les mains des fondations privées. Le public n'a quand même pas à s'occuper de ces gens sans intérêt. alcoolique, illettré, fainéant, cynique, etc. Et on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce merveilleux plan pauvreté, 2 milliards par an, ce qui représente quand même 2% de la fraude fiscale. Bon.
Oui, ça dépend par rapport à quoi tu compares, oui,
évidemment. On en reparlera. Dans le cas présent, je voudrais évoquer le loto du patrimoine, destiné à l'initiative de Stéphane Bern. Est-ce un prochain décru ? Déçu. Du macronisme, c'est le macronisme qui décroît. Destiné à l'initiative de Stéphane Bern, à venir en aide aux monuments en péril. Rappelons au passage, pour un certain nombre d'entre nous, qu'une émission de télé par Pierre Delagarde, très suivie il y a une cinquantaine d'années, c'est dire le chemin parcouru, s'appelait déjà « Chefs-d'œuvre en péril ». Et nous la regardions. Bien, une amie de longue date a voulu contribuer à cette noble entreprise. Elle s'est donc rendue chez un commerçant qui vendait ses merveilleuses cartes à gratter. Elle y a constaté que le ticket coûtait pas moins de 15 euros, ce qui n'est quand même pas insignifiant. N'écoutant que son sens du devoir citoyen, elle s'est quand même fendue de la somme demandée. Mais quand elle a constaté que sur les 15 euros, la Française des Jeux en gardait 13,52 pour elle, c'est mon ami qui a eu, passez-moi le jeu de mots qui anticipe sur le sujet d'Éric tout à l'heure, l'impression de se faire berner.
Eh bien voilà, je crois que... merci François pour ces premières brèves. Est-ce que ça suscite un commentaire rapide ou pas dans la salle, dans l'assistante, autour de la table, du micro? Non, rien?
Je pense que le sauvetage du patrimoine est réservé aux riches, de toute façon. Comme la visite, d'ailleurs.
C'est certain. Alors, on va écouter justement une chanson qui va faire la transition, une chanson un petit peu humoristique entre les brèves de François et puis le premier sujet. Une chanson choisie par François, donc une chanson comme ça s'appelle « La complainte du projet » sur Fréquencier.
Bah dis donc, t'as vu Nicolas ? Pour les journées du patrimoine, Brigitte et Emmanuel Macron vont ouvrir une boutique de souvenirs à l'Elysée.
Oh bah allons-y !
C'est parti !
Allez !
Autrefois à l'Elysée, on signait des décrets, on faisait de la politique, c'était pas bénéfique. Aujourd'hui c'est plus pareil, pour se faire du fric, on ouvre une petite boutique, on y trouve des merveilles. Oh Brigitte, épouse-moi, et ensemble on vendra des verres Macron, des pulls verts Macron, des tasses Macron, des députés carpettes, des capotes Macron, des piques à glace Macron, même tomber du camion, ça nous fera des pépettes, une boule à neige, ramener du Saint-Siège, quelques bouteilles pour se boire un pot à la source, des pommes de terre, de la bière Jupiler, le dernier panier bio de Nicolas Hulot, autrefois pour rembourser 1 milliard ou 10, on taxait les fortunés qui se barraient en Suisse. Aujourd'hui c'est plus pareil, on exempte les riches, on leur donne même un bac chiche, mais ça coûte de l'oseille. Oh Français, si l'on est ruiné, il faudra supprimer les APL, les trains pour La Rochelle, les aides aux réfugiés et pour les paysans. On fout en l'air la sécu cet hiver et on baisse les salaires de tous ces fainéants, ceux qui ne bossent pas tard pour se payer un costard, ceux qui ne sont rien ou guère, les Gaulois réfractaires. Et si ça marche pas, on appelle Benalla pour faire la police et vendre avec délice du glyphosate, des chasseurs qui s'éclatent, des ministres de droite, de la croissance à zéro, un choc fiscal, la réforme du rail et sur les nationales. Tu vas rouler mollo, on veut gagner du blé, car c'est notre projet. Les t-shirts Élysée, qu'ils viennent les chercher. Et si la France trouve que ça n'a pas de sens, on attendra un peu jusqu'en 2022. On attendra un peu jusqu'en 2022. En attendant Brigitte, fais-moi un cordon bleu.
Voilà, Fréquence Sillée, émission Micro-Libre, la complainte du projet. Bah, trouvée par François, cette petite pépite sur l'air de Boris Vian.
C'est la complainte du progrès.
La complainte du projet.
Chez Boris Vian.
Et voilà. Donc, ça nous met en joie pour écouter la suite. Eric va nous parler de l'humour. Alors, la question de l'humour, les blagues, qu'est-ce qui nous fait rire, les limites de l'humour, vas-y.
Alors, l'humour, alors franchement, là, je me marre. Voilà un sujet qu'on me demande de préparer avec une introduction sérieuse. Alors, sérieuse, non pas dans le sens où elle doit être forcément très triste ou avec la tronche des technocrates encravatés coincés dans leur petit costume. Ceux qui connaissent Gottlieb et la rubrique Carbrac auront compris l'allusion, et ceux qui ne connaissent pas Gottlieb, et là, il y a une faille dans le bagage culturel, comprendront aussi. Sérieux doit vouloir dire aussi qu'on le fait bien, mais pas forcément pour ennuyer tout le monde. Bon, alors je m'y colle. Tout ça ne vaut pas l'humour, le grand humour, le bel humour. Tiens, ça c'est déjà une forme d'humour, le détournement de références connues. Bon, en fait, l'humour, c'est quoi? A priori, c'est ce qui me fait marrer, et c'est ce qui fait marrer aussi les autres, mais pas forcément. Alors, on doit distinguer deux grandes familles d'humour. Voilà, d'abord, l'humour professionnel. L'humour professionnel du spectacle, du sketch, du cinéma, de la chanson, de la caricature, de l'écriture. Et là, on en a des références. Viendraient alors en vrac Coluche, Les Inconnus, Fernand Reynaud, Robert Lamoureux, Pierre Desproges, Guy Bedos, l'équipe de Charlie Hebdo, Gottlieb, tiens, le revoilà. Charlie Chaplin, Bourville, De Funès, La Panthère Rose, de Peter Sellers, Les Bronzés, un Père Noël, Belle Ordure, là. Un Bobby Lapointe, évidemment, ami le hérisson. Un Brassens pour la subtilité, un Jean-Yann, un Pierre Dac, enfin, on va pas s'arrêter. Cet humour professionnel, on pourrait le classer dans le temps. Au début du XXe siècle, c'était plutôt un humour, comme on disait, pompier. Puis après-guerre, on a eu les cabarets, les chansonniers. Puis émergent les rois du sketch, du stand-up, comme on dit aujourd'hui. C'est mieux, stand-up. Ridicule. Bien. Comme on dit aujourd'hui, donc ce stand-up, et là, on pourrait retrouver aussi bien, de Robert Lamoureux jusqu'à Jamel Debbouze, en passant par Jean-Marie Bigard. On est dans la grande diversité. Et puis, il y a eu les bandes. Alors, les bandes. Non, c'est correct ce que je dis, c'est propre, hein, y a pas de problème. Hein. Donc, il y a eu les bandes, il y a eu le Café de la Gare, par exemple, de Romain Bouteille, l'équipe du Splendide, et puis il y a eu la télé, avec par exemple Les Nuls ou Les Inconnus, et puis il y a eu les films. On a déjà cité quelques-uns tout à l'heure, avec Bourville de Funès, Les Bronzés, Les Visiteurs, La Panthère Rose, en ce moment Alad 1 et Alad 2. Ha, quel trait d'humour. Bon, enfin bref, Les Ch'tis, Les Tuches, avec la logique que si le public a bien ri sur un film, a priori, il rira autant sur un épisode suivant. Enfin, il rira, et en même temps, comme dirait quelqu'un, il y en aura qui vont s'en mettre plein les poches avec nos bons gros rires. Mais pour une fois, l'anticapitaliste viscéral leur pardonnera. Parce qu'un bon moment de rire, on le sait, c'est quand même bon pour la santé. Et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, tous ces films, ces sketchs, fournissent aussi une ribambelle de répliques que nous allons tous réutiliser dans notre vie quotidienne. Que celui qui n'a jamais fait un trait d'humour en reprenant les répliques des tontons flingueurs ou des inconnus me jette la première pierre. Mais deuxième catégorie, l'humour, et c'est donc ma deuxième famille, c'est celui qui fait du bien et qui en plus est gratuit. C'est celui du quotidien et des situations inattendues, les propos décalés, une maladresse, un beau mot spontané qu'on lance dans la conversation, une histoire si possible, vraie et étonnante. Parce que, faut bien que je vous le dise, j'aime bien ces histoires, mais alors je déteste complètement le gars qui annonce « Et celle-là, vous la connaissez? Tiens, je vais vous en raconter une bien bonne, ça va vous faire rire. » Je n'aime pas les raconteurs de blagues stéréotypées. Alors l'humour, c'est d'abord la spontanéité, dans l'inattendu, dans l'insolite, dans la volonté de faire du bien pour créer une atmosphère conviviale ou détendue, dans le décalage, dans la dérision, l'ironie, voire la moquerie gentille, ou carrément l'humour noir. L'humour, c'est souvent la médiation la plus performante, quand on sait que le premier degré rendra les relations difficiles. Le troisième degré, c'est pas mal aussi, mais n'allez pas jusqu'à 12,5 degrés, car là, l'humour peut devenir lourd. Et au fait, revenons à cette question. Peut-on rire de tout? Et moi, j'aime bien la réponse qui dit « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Ce qu'avait dit Pierre Desproges sur France Inter lors d'une émission du Tribunal des flagrants délires en présence de Jean-Marie Le Pen. Et nous, dans Micro Libre, on en pense quoi de la place de l'humour dans les relations humaines?
Alors, qui se lance? Qui se lance? Personne? Il n'y a pas de...
L'humour, c'est important. C'est ce qui donne
Bah, je sais pas, qu'est-ce qui te fait rire, toi, Mouni, par exemple?
À moi, tout me fait rire. Bon, bah, bon public. Moi, je suis...
Bon public.
Je suis bon public, voilà. J'aime bien vraiment tous les humours. Et je trouve que les gens qui ont de l'humour sont beaucoup plus sympathiques. C'est vrai, on a tendance. Ouais. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui ont de l'humour.
Ah, bah, qui dit femme qui rit, voilà. À moitié dans son lit. Hein. Femme qui rit à moitié dans son lit.
Qu'est-ce qu'on fait de l'autre moitié?
On la congèle
pour plus tard. Elle travaille.
Je vais la répéter tous les matins.
Voilà, donc moi, je trouve que l'humour, c'est vachement important. Le rire, c'est bénéfique. C'est vrai, il y a quand même...
c'est même sponsorisé par les hôpitaux de France. Hein,
pour la santé, c'est très très bon.
Minimum.
Voilà, donc
salutaire.
Je trouve qu'un bon fou rire, il n'y a rien de tel pour enlever toute la pression et tous les problèmes qu'on peut avoir.
Et même le sourire.
Et le
sourire tout court fait du bien.
Tout à fait.
Parce qu'on peut sourire tout seul, on rit avec les autres, mais on sourit quand on est tout seul.
Exactement.
Et en fait, c'est la même chose, c'est la même fonction.
C'est le
moment où on décompresse.
On décompresse.
Mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, je me demandais, les émissions d'humour aujourd'hui à la télé, par exemple, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Faut dire, je regarde pas non plus la télé.
Il y en a quand même quelques-unes. On a le fameux Marrakech du Rire là, qui de temps en temps présente de nouveaux humoristes. Avec quelques.
Parce que la bande à Jamel, quoi.
Oui.
Eric, tout à l'heure, citait par exemple Les Nuls, Objectif Nul.
On est moins dans cette époque-là.
On est moins dans cette époque-là. L'humour a changé, le type d'humour a changé.
Il y a quand même une nouvelle poussée, je trouve, de jeunes là qui sont beaucoup dans l'auto. Notamment des gens de couleur ou des qui vont pouvoir se permettre de critiquer la religion puisqu'ils en font partie.
Christian, tu voulais
Oui, je dis que je pense que le politiquement correct ne permet plus aujourd'hui de faire de l'humour comme Les Nuls, par exemple. Je pense que ce serait plus ou moins censuré par... Auto-censuré,
même des proches aujourd'hui, est-ce qu'il leur a encore sa
place? Des proches...
La morale, elle revient...
Y a-t-il des juifs on m'a dit qu'il y avait des juifs dans la salle. Ça passerait pas,
Si, moi j'ai entendu il y a pas très longtemps des petits jeunes faire des tas de blagues justement sur les juifs, sur les arabes, sur les terroristes. Il y a eu quand même une nouvelle poussée là récemment, j'ai pas de nom en tête, mais il y a quelques humoristes qui continuent sur cette lancée.
Mais à partir du moment où on est dans un contexte où on sait comment ça vient, quoi. Étant donné qu'un des proches, par exemple, qui avait un humour froid, c'est-à-dire on avait tout le temps l'impression qu'il était sérieux quand il sortait une énormité.
Un pince sans rire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que sur ce ton-là,
ça passerait facilement.
Je pense que ça passe avec eux parce qu'ils englobent tout le monde, en fait. Ils vont faire tour à tour les juifs, les chrétiens, les musulmans. Et dans le même spectacle, ils vont reprendre un petit peu tout le monde.
On est dans l'idée qu'on peut rire de tout, à condition que ce soit vraiment de tout. Et non pas exclusif, quoi.
Et François, donc on t'a pas entendu sur le rire. Toi, qu'est-ce qui te fait rire? Rapproche-toi déjà.
Déjà le fait d'en parler. Mais tiens, une petite histoire qui va vous faire rire, comme dirait.
Ah non, pas d'histoire.
Non, d'accord. Ah si, j'ai raté bon coup. Mais très, très sérieusement, en quelque sorte, j'ai un souvenir d'enfance qui est que chez mes grands-parents, nous nous retrouvions avec mon cousin, ma tante, ma mère. Et que tous les soirs, nous avions une séance de fou rire. Elle n'était pas prévue, elle n'était pas programmée, mais qu'est-ce qu'on se marrait à propos d'un peu tout et n'importe quoi, et ça mettait quand même une sacrée bonne ambiance. Pour ce qui est du contemporain, moi je voudrais saluer, parce que je les regarde avec beaucoup d'intérêt, les humoristes de France Inter. Je veux dire que j'aime beaucoup Guillaume Meurice, beaucoup Charline Van Hoenecker, j'aime beaucoup Nicole Ferroni, beaucoup Constance, mais il y a un peu une raison différente. On en reparlera off tout à l'heure. est-ce qu'on peut rire de tout? Je peux vous raconter une expérience toute récente parce qu'elle alimente justement cette réflexion. C'est que j'ai vu que Brigitte Macron allez participer à une émission
tout à fait.
Sur les handicapés ouais. qui s'appelle
une mini-série
voilà, dans les vestiaires, que je regarde de temps
de
en temps
début de soirée.
Quand je suis en avance sur le film, souvent je regarde. Et alors, donc, j'ai posté sur Facebook, après Raquel Garrido qui va bouffer des roubignoles de coq le Fort Boyard. Voilà Brigitte Vray, qu'est-ce qu'on prévoit pour Morano, qu'est-ce qu'on prévoit pour etc. Ah bah non, etc. Et alors, bon, il y a eu deux sortes de gens, y compris une petite copine qui s'est marrée puis qui a lancé des trucs en disant mais pour Brigitte Macron, on pourrait penser qu'elle remplace le père Fouras, elle a l'âge pour. Bon, et ça a provoqué des réactions indignées en même temps, et je trouve que là, pour le coup, le deuxième degré fonctionne, c'est vraiment très drôle de constater que l'humour n'est pas partagé par tous au même degré.
Ah non, non. Oui, on ne sait pas quand on est au premier degré, enfin... Quand on se connaît, on sait où est le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. Mais quand on ne se connaît pas,
bah oui.
on ne peut pas savoir. Et de plus, quand on ne se voit pas.
Ah ouais.
Parce que c'est vrai que quand on est dans une relation physique, quand on se voit, on sent bien. Il y a quelque chose dans le gestuel.
Il y a le métalangage qui intervient.
Voilà, qui montre qu'on est en train de déconner. Quoi. Enfin, voilà. Mais quand on a uniquement la parole... c'est beaucoup moins évident. Et quand c'est l'écrit, c'est pire.
C'est pire.
Parce
c'est
que l'écrit, il reste.
Tout à fait.
Alors que
c'est,
la parole,
c'est redoutable.
Elle fuit.
Oui, oui.
Mm-hmm. Et toi, Christian, donc, les genres de blagues, de situations de...
Ah ben, les genres de blagues, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est François qui disait je vais vous en raconter une bien bonne. Ça, je supporte pas. Et en plus, c'est les gens qui disent ça, en général, ils en ont un paquet dans leur poche.
Et ça n'en finit pas.
C'est vraiment... Voilà. Épouvantable. Non, moi, il y a aussi un phénomène qui est flagrant, c'est que l'humour, selon les pays, est différent.
Mmh. Tout à fait.
Ouais.
Hein? Les rois de l'humour, c'est les Anglais. Hein.
Faut pas, vraiment, c'est les Anglais, c'est, hein,
ouais. Oui, vraiment. Et ça date de...
Même depuis le Brexit.
c'était déjà humoristique, mais ils ne connaissaient pas la fin. Faut lire, par exemple, les conseils aux domestiques de Swift.
Ah, tout à fait.
Ah oui.
C'est vraiment un
régal. Hein.
Ah oui, tout
un
à régal. Fait. Et c'est du quoi? C'est du 16e siècle ou quelque chose comme ça.
Et c'est un recueil d'humour, ça?
Hein?
C'est un livre d'humour.
Il donne des conseils complètement farfelus aux domestiques, alors que c'était pas la mode à ce moment-là. C'était... Et puis, il y a des pays comme, par exemple, l'humour tchèque avec des gens comme Bohumil Hrabal, qui sont les rois de la dérision.
Mmh,
et alors, par contre, si tu vas dans le Maghreb, les Marocains n'ont absolument aucun humour. Et les Algériens, alors, ils pétillent. Hein,
Et pourtant, c'est des pays voisins.
C'est
curieux, ouais. Et les Belges alors, parce que les Belges, c'est quand même en France les.
C'est ce qu'on dit. Hein.
C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est les histoires belges, elles sont célèbres quand même.
Mais chaque pays a un pays qui lui sert de
référence.
De tête à claque. Oui.
De tête à claque, oui.
Ouais. Je crois savoir que les Belges nous le rendent bien.
Ouais.
Les Suédois, c'est les Finlandais.
C'est ça, oui.
Et c'est les mêmes histoires. C'est de la nationalité qui change. Enfin, moi, je ne supporte pas les gens qui n'ont pas d'humour. Qu'on se le dise.
C'est pas drôle.
Mince alors.
Après, l'humour plus ou moins subtil, c'est vrai, comme disait Eric, ça dépend toujours à qui on s'adresse. Parce qu'on n'est pas toujours réceptif à l'humour de l'autre.
Et
ça,
alors,
c'est toujours la difficulté.
Justement, tu disais tout à l'heure, Christian, que ça dépendait aussi des pays, mais ça dépend des générations.
Oui.
C'est-à-dire que le trait d'humour que des gens de notre âge vont faire avec des jeunes va pas passer, parce que souvent, il y a des références culturelles qu'il y a derrière tout ça. Et l'humour que les jeunes vont avoir avec leurs termes, etc., va nous échapper aussi, parce qu'ils ont aussi leurs propres références culturelles. Et ce qui est le pire, c'est quand on se force à prendre une forme d'humour qui n'est pas spontanée, qui ne correspond pas à notre tempérament ni à notre âge, exprès pour rentrer dans le jeu de l'autre. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien que les jeunes ils viennent s'inspirer de nous. Mais non, je déconne. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est vrai que j'aime pas l'adulte qui se force à faire des blagues jeunes, justement pour la faire jeune, quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais ça marche pas bien.
Ça marche pas bien. Et ce qui est dommage, c'est que
bon, ils sont pas bêtes, les jeunes. Ils se rendent bien compte que c'est du factice, que c'est du fabriqué. C'est pas naturel, c'est pas spontané. L'humour doit être spontané.
Ouais.
À François, alors,
moi,
oui.
J'aurais une question à poser. Est-ce que finalement les femmes sont pas insensibles à l'humour? C'est pas une histoire d'homme.
Il va poser la même question après pour les juifs, les écossais. Les...
Oui, c'est ça. C'est quoi ça?
C'est quoi ça?
Alors, repose ta question, parce que je pense que les auditeurs vont beaucoup l'aimer.
Vas-y, ta question, c'était quoi?
C'est vrai que, expérience personnelle, avec mes enfants, j'en ai 4, deux filles, deux gars, et que c'est quand même avec les garçons qu'on a créé une espèce de culture commune, que les filles écoutent avec amusement, un peu condescendante, il faut dire. Mais là où on se marre, c'est sur des trucs qui sont extrêmement mauvais, comme Monsieur et Madame ont un fils, ou des trucs comme ça. Et plus c'est mauvais, plus que c'est bon. Bon, et c'est vrai que je constate que alors, ni mes filles ni leur mère ne rigolent autant que les garçons et leur père.
Parce que les femmes ont un rôle de sérieux.
Ouais,
voilà. Peut-être. Donc elles ne peuvent pas exploser complètement dans l'humour.
Mais
hein.
C'est le poids de l'histoire. Parce que si on se rappelle bien les familles telles qu'elles étaient encore jusque, allez, on va dire à 1968, allez, on va prendre une référence. C'était les hommes qui parlaient. Les femmes parlaient peu. C'était les hommes qui apportaient le trait d'humour et l'autorité dans le verbe, alors que les femmes étaient là uniquement, pour s'occuper d'autres choses.
Pour apporter les plaies de la cuisine.
Et partout. Et c'est pas illogique qu'aujourd'hui, on puisse avoir cette impression que l'humour est encore un privilège masculin, parce que justement les femmes ont à rattraper tout ce retard, tout ce poids historique, et elles le rattrapent très bien.
Elles le rattrapent
parfaitement.
On parlait des humoristes de France Inter, il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes.
Maintenant. Absolument. Oui.
Hein, quand des Ferroni, des la Belge...
Van Honecker,
oui. Et puis celle du lundi. Celle qui a fait tout un spectacle sur les religions.
Alors là, je
suis une arabe.
Ah oui. C'est parti du groupe de jeunes dont je parlais tout à l'heure.
Sophie Aram. Ça, c'est des gens extraordinaires.
Ah oui, Sophie Aram.
Ferroni, pour moi, c'est la meilleure. Hein. Ouais. Elle est vraiment...
Elle manie le verbe avec beaucoup de facilité, ce qui est une...
Ah oui, c'est extraordinaire.
Un point important. Meurice, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est du comique de situation davantage, sans doute, que du commentaire. Mais c'est vrai que quand il va se frotter auprès d'un certain nombre de gens qui l'interviewent et que les gens ont la sottise de penser qu'il est sérieux et qu'il ne va pas se payer leur tête... Je sais pas de quel degré c'est, mais en tout cas, on rigole bien. Moi, en tout cas.
Ah oui, oui.
Mais sur la question, peut-on se moquer de peut-on rire de tout par rapport à l'homosexualité, par exemple. Si on regarde la façon dont l'homosexualité était traitée par les humoristes au début du siècle dernier et jusque aussi dans les années 60-70, la cage aux folles, par exemple, c'est un truc que je trouve scandaleux. Je ne supporte pas la cage aux folles.
Sauf que c'est daté à une époque aussi.
Ben voilà, ça correspond à une époque.
Oui, ouais.
Bon,
oui.
Et c'est vrai que aujourd'hui, que l'homosexualité est rentrée, on va dire, dans les choses reconnues par quand même. La quasi-totalité des gens, à part une toute petite fraction d'intégristes d'un certain côté de l'échiquier politique, on peut se permettre davantage de choses par rapport à l'homosexualité, ça passe un peu mieux. Ceci dit, on trouve encore beaucoup de lourdeur. Je pense à certaines émissions de radio dans des chaînes privées, par exemple. Je pense genre Grosse Tête ou des choses comme ça, où on y va un peu lourd des fois,
ça vole pas,
sur les questions liées à l'homosexualité, liées au sexe, liées à l'image de la femme, etc. Ceci dit, on le sait, ils le font volontairement, mais n'empêche que bon. C'est un peu facile dans ces cas-là de faire rire avec vraiment des grosses lourdeurs. Quoi.
Je vous propose une première pause musicale, enfin
non,
une deuxième.
Drôle,
Non, c'est pas drôle, on avance quand même. On aura l'occasion d'y revenir sur ce sujet du rire. De toute façon, on rigole souvent ici, donc c'est pas un problème.
Ah ouais, c'est vrai.
Oui, je trouve aussi.
Sans blague.
Donc on va s'écouter quand même un chanteur qui a disparu, bah, qui est mort le 12 septembre 2018, donc il y a quelques jours. C'est Rachid Taha qui nous a quitté à l'âge de 59 ans, chanteur algérien. Je vous propose d'écouter sur Fréquencié, son plus grand tube, Ya Raya, Rachid Taha sur Fréquencié.
Super.
رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
Rachita sur Fréquencié, Yaraya. On va partir dans la forêt maintenant. On va faire une petite balade puisque c'est bientôt la saison des champignons.
Ouh,
oui, oh, oui. Et on a la chance à Ciel Guillaume d'avoir une grande forêt. Ouh. Avec des loups et des ours.
J'en ai pas rencontré.
On n'a pas rencontré les ours de Sillé et de Montreuil. Ils sont célèbres dans le secteur.
Tout à fait.
Tout à fait, ouais. Faire attention. Alors, les champignons, eh bien, première question. Alors, c'est un quiz, donc les auditeurs peuvent, auditrices peuvent aussi s'amuser à répondre. Hein. Il n'y a pas de question piège. non. Ça commence tout simplement. Quand est-ce que sont apparus les champignons? Est-ce que ça fait 800 millions d'années, 500 millions d'années ou 100 millions d'années, d'après vous?
Oh ben 800 millions, je dirais, moi.
Ah, 800 millions, 500 millions, 100 millions.
Je sais que j'étais pas né, contrairement à ce que beaucoup pensent.
Oui, on manque un peu de témoins.
Oui, on manque un peu de
témoins. Tu sais qui les a bouffés, ils sont morts alors. Ça me semble.
Allez, au milieu, on prend le milieu.
800 millions,
500
millions.
Allez, 500 millions, c'est ça. Soit à l'époque du Silurien, les champignons ont colonisé presque tous les milieux terrestres, et même aquatiques et en eau douce, saumâtres et même marines. En fait, les premiers champignons sont vraisemblablement les premières plantes terrestres à coloniser les terres émergées.
Ah, d'accord.
Voilà, l'utilité du champignon.
Grand moment de culture, là, merci.
Voilà, 500 millions d'années, voilà. Alors, de quand datent les premières cueillettes attestées, cueillettes par l'homme, les premières traces de cueillettes par l'homme attestées par l'archéologie? Est-ce qu'il y a 500 000 ans, est-ce qu'il y a 50 000 ans, 10 000 ans ou 2500 ans avant Jésus-Christ, hein.
2005,
je dirais 2005 aussi, moi. Mais
2005, oui.
Ouais. C'est ça, hein.
Une découverte archéologique de 91 a révélé qu'un homme vivant vers 2500 avant Jésus-Christ transportait dans son sac deux champignons. Ah oui. Alors c'était des polyphores du bouleau, probablement à l'usage médical, et de l'amadou, probablement allume-feu.
Pour le feu. Oui.
Voilà. Mmh. Et en fait, ce qui suggère que les hommes préhistoriques vivaient donc de la chasse et de cueillette, et ont peut-être aussi avant lui récolté des champignons. On n'a pas de traces de ramassage de champignons, sauf sur cet homme retrouvé par les archéologues 2500 ans avant Jésus-Christ. Voilà.
Ceci dit, les hommes consommaient des champignons bien avant. Oui,
oui, oui, c'est sûr. Non, mais des traces, je disais, attestées.
Absolument,
que bon,
d'accord.
Voilà.
Ouais.
Alors, combien d'espèces de champignons dans le monde? Est-ce que c'est 500 000, 100 000 ou 50 000?
Oui, ah, c'est vraiment des questions à la con quand même.
J'ai 100 000. 100 000.
Et voilà, c'est Monique qui a gagné 100 000 espèces de champignons dans le monde.
Bon, il y en a beaucoup. Hein.
Et parmi ces champignons, ces 100 000 champignons, combien sont comestibles? Combien d'espèces? 10 000, 2 000 ou 1 000?
Ah, il y en a sûrement très peu.
Pas tant que ça, je dirais, moi, 1 000.
Ouais, 1 000, moi je serais assez
moi,
d'accord.
1 000.
Ouais,
1 000. 1 000. Donc sur les 100 000 champignons...
Donc si on a bouffé les 1 000 autres...
on
est tous morts.
Donc c'est un chiffre intéressant, parce qu'il y a 100 000 espèces, il n'y en a que 1 000 qui sont comestibles.
Vous voyez, après voilà, on dit que les femmes n'ont pas d'humour.
Voilà. et 500 d'entre eux, enfin 500 espèces d'entre eux, sont utilisées comme remède dans la médecine traditionnelle.
D'accord.
Voilà, donc ça sert aussi dans la médecine, en Chine, etc., pays-là, quoi. Mmh.
Au Mexique aussi, je crois qu'ils en utilisent pas mal. De ce que j'ai entendu dire, j'ai pas essayé, mais j'ai entendu dire.
Oui, j'ai lu des choses aussi sur le chamanisme, des choses comme ça, avec les champignons. Bon, c'est un petit peu dans ce...
Hallucinante.
Tout ce qui est aussi dans la magie blanche, magie noire. Enfin bon, je suis pas allé là-dedans parce que
quelques propriétaires en usent aussi beaucoup pour justifier leur loyer.
Aussi, ouais. Alors, quel est le champignon, ça c'est une question facile, qui a créé, quel est le champignon qui crée le plus de décès en France? Est-ce que la manitimouche, panthère ou phalloïde?
Phalloïde,
oui, qui a la réputation d'ennemi public numéro 1 du champignon. Elle est responsable en effet de 90% des cas d'empoisonnement grave en France.
C'est beaucoup.
Et pourtant, c'est on la reconnaît facilement et je comprends pas trop pourquoi.
Le problème, c'est que ça a un effet retard.
Ça a un effet retard, oui.
Oui, c'est ça.
Tu les manges aujourd'hui, mais tu ressens la maladie.
Oui, mais enfin, les gens, ils sont au courant quand même depuis le temps.
Ouais. Ah c'est foutu.
C'est foutu quand ça arrive.
Ah ouais.
C'est souvent les enfants peut-être qui risquent de toucher à ce genre de champignons sans forcément savoir.
Oh, si, ouais, quand on va en forêt, c'est vrai qu'on est tenté par ramasser
les... Et si on les touche et on suce les doigts, par exemple, est-ce qu'il y a un danger ou pas?
Je crois que c'est un peu toxique. Quand même, on peut peut-être avoir un petit peu de douleur au ventre. Mais...
Oui.
C'est vraiment la consommation.
À mon avis, c'est la consommation.
Il faut mieux éviter quand même, à mon avis, de toucher déjà ce genre de champignons.
Oui, il faut être bête.
On est à la radio, je ne peux pas vous le décrire, mais bon,
ça dépend qui tu
trouves sur Internet. Oui, ça dépend, ouais.
ils ont une volve, ils ont un anneau.
Oui, c'est blanc.
C'est à ça qu'on les reconnaît.
Oui, c'est blanc.
Ce qui est ennuyeux, c'est que le meilleur des champignons, c'est l'amanite des Césars, m'a-t-on dit, que je n'ai jamais goûté.
L'orange.
Et qui est une amanite.
Oui, une amanite, mais qui est orange.
Orange, bah.
Ouais.
De toute façon.
Enfin bon. Moi, je ramasse
quand je connais
que ce
pas,
que
je mange
connais.
Pas.
Alors ça, c'est pour ceux qui... Une question pour les qui aiment la langue française. Est-ce que vous pouvez citer des expressions francophones avec le mot champignon dedans?
Bah, appuyez sur champignon.
Appuyez sur champignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a quelques-unes. Hein. Allez, poussez comme un champignon.
Oui, d'accord.
On va dire très vite. Dans le même genre, il y a une ville champignon.
Oui,
les villes champignons, les villes qui poussent très rapidement, voilà. Donc appuyez sur champignon, ça vous l'avez dit. Dans le domaine de l'atome.
De savoir.
Non. Le champignon atomique.
Bien sûr,
voilà.
Donc nuage formé lors d'une explosion nucléaire. Une butée de porte aussi, qui s'appelle aussi champignon.
Oui, très juste.
Très juste, ouais. Né comme un champignon aussi. Né apparemment de nulle part, comme un champignon, c'est-à-dire de père inconnu.
Ah bon?
Donc ça, c'est moins connu déjà.
Je ne connaissais pas.
Et puis, les butées mécaniques aussi qui renvoient la boule du flipper sont des bumpers ou champignons en français.
Ah oui, oui, oui.
Dans les flippers.
Et puis, il y a le fameux champignon du quiz aussi.
Ouais, aussi
oui,
ouais.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a plein de mots, plein d'expressions en français qui prennent le mot champignon. Et puis, dernière question, avant-dernière question, connaissez-vous la réglementation sur le ramassage des champignons? Parce que. On va tous, je pense, à peu près y aller. Enfin, moi, je vais y aller déjà. Donc,
Je crois qu'il y a des horaires à respecter.
C'est pas tellement des horaires.
En forêt de Bercé, c'est interdit d'y aller le jeudi. On n'a pas le droit de retirer de ramasser les champignons le jeudi.
Ouais.
Voilà, alors, déjà.
C'est le poids surtout, non?
Après, oui, je crois qu'il y a.
Il y a une question de poids. Alors, il y a deux choses. Il y a des endroits où on ne peut pas ramasser de champignons, où c'est non autorisé, et c'est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. Donc, si on va dans un bois privé, par exemple, on peut se faire attraper et avoir une amende de 150 euros. Ouais. Et la question de poids aussi, là, c'est pas du poids, c'est du volume. Supérieur à 5 litres est interdit, donc 5 litres de champignons, je sais pas ce que ça représente, un panier ou je sais pas. L'amende peut aller jusqu'à 750 euros. Si on se fait prendre avec plus de l'équivalent de 5 litres de champignons dans un panier ou dans un sac. Il y a aussi l'absence de clôture d'une propriété privée. C'est pas parce qu'il n'y a pas de clôture qu'on peut rentrer sur le terrain, mais bon, ça c'est à peu près logique. Voilà, donc un petit peu la réglementation. Bien sûr, après il y a des règles locales, comme tu disais Mouni, c'est le cas aussi dans la forêt de Sillé, il y a des jours qui sont interdits.
Mais je sais pas si c'est toutes les forêts.
C'est le jour de la chasse à courre.
Il y a aussi des jours de chasse, oui, voilà. Oui, parce qu'en plus, il y a des secteurs sur la forêt de Sillé. Alors, c'est pas toute la forêt qui est interdite le jeudi. Il y a certains, c'est le jeudi. D'autres secteurs, ça va être le lundi. Enfin, il faut regarder. Il y a une carte disponible sur Internet et on sait quels endroits sont autorisés ou pas.
Donc, je sais pas si c'est sur toutes les forêts de France.
Ça, il faut regarder sur la forêt de Bercé. On pourrait se renseigner.
La forêt de Bercé, c'est interdit. Voilà.
Et dernière question, la plus sympa, et comment mangez-vous les champignons? Comment est-ce que vous les cuisinez?
Assis.
Grillé.
Assis devant mon assiette.
Grillé à la poêle.
Alors, c'était pas ça, j'ai dû me tromper.
En sauce.
Moi, je préfère ça avec de la crème.
Champignons à la crème.
Champignons à la crème. Moi, je les aime grillés avec beaucoup d'ail et du persil.
Ah, ben moi aussi, grillé à l'ail et au persil avec du beurre.
Voilà.
Et frais avec une mayonnaise.
Attends, approche-toi, François.
Pardon.
frais à la mayonnaise en...
cru. À la mayonnaise.
Cru, oui. Cru, oui.
Ah, moi, je les aime pas crus.
J'aime bien cru.
Aussi.
Ouais, mais attends,
j'aime bien tout.
Des barbecue, j'ai testé, c'est pas mauvais non plus.
D'ailleurs. Ah oui, ouais. Sûrement que ça doit griller assez bien.
Mmh. Oui, c'est très bon. Bah, oui.
Non, mais des cèpes de Bordeaux crus, je sais pas.
Les gros champignons farcis, c'est sympa aussi.
Les champignons de Paris, généralement.
Les champignons de Paris, oui. Oui, les champignons de Paris crus, parce que...
Il faut vraiment vraiment très, très frais. Hein. Enfin,
Les petites rosées des prés qu'on trouve pas mal dans le coin, aussi.
Les rosées des prés, oui. Ça, on en trouve pas mal aussi.
Ça prend beaucoup de plus.
Alors, mais empoilé avec un petit peu d'ail, un petit peu de persil, c'est pas mauvais.
Alors, Monique, vous voulez...
Je ne sais pas si c'est aussi sur tout le territoire, mais par exemple, depuis 2 ans... Il y a certaines communes qui font payer, enfin qui mettent une carte. On est obligé de prendre une carte pour le ramassage des champignons.
Ah ouais.
C'est-à-dire que par exemple à Vibray.
Voilà, mais il ne faut pas leur donner des idées ici. Hein.
À Vibray. Il
fallait se taire parce qu'ils vont les écouter, ils vont mettre des cartes.
Alan, coupe.
Mais c'est très cher de toute façon. Hein. C'est 25 euros pour la saison pour ramasser des champignons. 25 euros.
Une carte pour aller ramasser des champignons.
Il faut
aller. Il faut payer.
Voilà. Et les gens du coin, ils payent 5 à 10 euros par carte. Une autorisation.
Et ça, c'est à Vibray, ça.
Du côté de Vibray, oui.
Du côté de Vibray.
Ouais, ouais.
Bon, on va leur laisser cette idée-là.
La forêt de Bercé, ils ne font pas encore.
Ils ne font pas encore, non.
Ça ne fait pas Vibray du tout.
Voilà, donc c'était c'était un petit peu les champignons, parce que vous allez bientôt, je pense, en croiser dans la forêt.
Il
faudrait qu'il pleuve un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt sec. On va attendre peut-être la fin du mois de septembre, mi-octobre.
De toute façon, ça va être en retard.
Hein. Voilà, ça va être en retard. Ouais. Et puis, peut-être qu'on ramènera ici des spécimens de champignons.
Les cèpes, surtout.
Les cèpes, oui. Mmh. Voilà, je vous propose une troisième pause musicale, puisqu'il y en a déjà eu deux. On va retrouver de la musique orientale avec un groupe que j'aime bien, s'appelle Acide Arabe avec la Alpha. Mmh.
sortir.
La Alpha sur Fréquencillé avec ce groupe Acide Arabe. Acide Arabe. Ouais, non, mais.
Voilà, ça fallait la faire. Inattendu.
Acide Arabe, c'est un collectif de musiciens qui font venir un tas de gens pour participer. Donc, je trouve que c'est un collectif de musique de ce type-là. Et moi, je trouve ça très sympa. Ouais. Ça, c'est assez varié dans leur style. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil aussi, là encore, à Rachida, puisque Rachida a participé aussi à ce collectif Acide Arabe. Voilà. Voilà, voilà. Donc, dernière séquence, eh bien, c'est politique. C'est politique aujourd'hui. Alors, il y a Emmanuel qui nous parlait de cet anniversaire du 11 septembre, un petit peu particulier, avec des photos qui ont été retrouvées il y a peu de temps, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Ben, je viens de voir qu'on avait dévoilé en fait, des photos un peu restées secrètes jusqu'alors, parce qu'elles sont, la propriété d'un journaliste qui est décédé peu de temps après la chute de la première tour. Et en fait, il a fait un petit reportage pensant que c'était un accident ou un effondrement relativement naturel avant de comprendre qu'il y avait donc une attaque terroriste. Et il a eu quelques minutes en fait, entre les deux tours pour filmer, prendre des photos et montrer un peu sa vision des choses. Et il est malheureusement décédé sous l'éboulement de la deuxième.
Et pourquoi j'ai pas compris pourquoi ça avait été gardé, mis de côté. Alors
peut-être
ces
que les familles, que les familles ont voulu préserver un peu cette intimité. Après, je pense qu'ils ont retrouvé l'appareil photo et des choses comme
c'est
ça dans les décombres.
Très réaliste.
Oui, et ils ne sont pas rendus compte forcément tout de suite que c'était un journaliste. Ils ont mis un peu de temps à réaliser en fait qui il était.
Mais est-ce que c'est parce que je regarde pas la télé, j'ai pas eu l'occasion. Mais est-ce que cette semaine il y a eu des choses à la télé sur le 11 septembre?
À
la radio, rien, il n'y a pas
quelques
eu de
rappels.
Quelques rappels, je crois. Ils en parlent un peu moins. Hein.
Il y a tellement d'autres actualités avec les.
Il y a un événement qui mérite d'être signalé, c'est la. Je suis pas. Tout le monde sait que je suis pas macroniste, hein, loin de là. Je déteste Macron, mais il faut dire que là, il a fait quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il a reconnu l'action de la France dans l'assassinat de Maurice Audin.
Oui, c'est vrai que ça.
Alors, c'est une période, évidemment, qui m'intéresse beaucoup parce que j'étais dans le bain et j'étais aussi ami avec Henri Allègre. Et c'est vraiment. Là, personne n'a osé, hein, à gauche et tout ça, personne n'a osé faire ça.
Ouais. Mmh. Et pourquoi justement ce délai
Je pense que c'est
parce
quelque chose qui lui coûte.
Il y a eu Jospin, il y a eu tous ces gens dits de gauche qui auraient pu aussi reconnaître.
Il n'y a que Chirac qui a fait quelque chose pour le régime de Vichy. Hein, c'est le seul. Mmh. C'est à droite que ça vient. Je pense que c'est un petit peu démagogique dans la mesure où aujourd'hui Macron, c'est le président des riches, c'est le président de la droite, etc., etc. Et ça lui coûte rien de faire ça.
Voilà.
Mais bon, c'est fait. C'est très important.
Non, mais ce qu'on peut regretter.
Pourquoi aujourd'hui? C'était son anniversaire, l'anniversaire de sa mort?
Non, je ne sais pas.
Ce qu'on voit souvent, c'est que le mémoriel est très utilisé par les décideurs politiques.
À
partir du moment où ils sont dans des situations difficiles avec des sujets d'actualité chauds, on dérive un petit peu avec un nouveau sujet. Comme tu disais, ça ne coûte rien. Et pour autant, c'est bien que ce soit fait. Voilà.
Oui. Hein,
c'est bien que ce soit fait. Le fait de reconnaître que les Français ont pratiqué la torture. En Algérie, ce que tout le monde savait, personne ne niait, même ceux qui savaient que, même ceux qui disaient que non, ils savaient que aussi il y avait eu, sauf que c'était pas politiquement correct de le dire. Donc c'est quand même bien, effectivement, que le représentant de l'État dise oui, il y a eu et d'ailleurs son intervention a été intelligente à Macron parce que il a bien dit que il a pas stigmatisé ceux qui avaient pratiqué la torture éventuellement sous ordre, il a au contraire dénoncé ceux qui avaient donné les ordres ou qui avaient donné le contexte favorable à la torture, ce qui est finalement très adroit, parce que ça évite de culpabiliser directement des individus, mais ça culpabilise un système et ça reconnaît la responsabilité de l'État, comme Chirac l'avait fait à propos de Vichy et des rafles, bravo là-dessus.
Oui, mais c'est quand même curieux, que lorsque Christian l'a rappelé, c'est quand même curieux que ce soit... ou que ce soit Chirac ou Macron qui interviennent sur ce genre de situation, alors qu'avant il y a eu Mitterrand, il y a eu Jospin à une autre période, il y a eu Hollande aussi.
Ça peut s'expliquer dans la mesure où si la gauche avait pris cette décision-là, la droite leur serait tombée sur le paletot, alors que là, ils peuvent rien dire, parce que ça vient de chez eux.
Là, il n'y a que l'extrême droite qui peut effectivement réagir. Hein, c'est tout. Sinon, pour le reste, même la droite, on va dire modérée, ne peut qu'aller dans ce sens. D'ailleurs, ils font très attention, j'ai entendu les déclarations de Retailleau.
Bayrou a dit des choses
Ils font très attention à ce qu'ils disent.
Des choses comment ?
Positives.
Ah bon ?
Il me semble, hein. Mais je suis pas certain de. Ça m'est arrivé.
De toute façon, voilà, c'est l'histoire ne se nie pas, l'histoire est. Hein, et à partir de là, donc c'est bien quand même que les États reconnaissent des responsabilités collectives ou des responsabilités qui sont de toute façon collectives si c'est un gouvernement qui a pris la décision, parce que le gouvernement il n'est pas arrivé par hasard. Le gouvernement il a été effectivement nommé à partir d'élections diverses, etc. Donc il avait une légitimité, y compris pour prendre les plus mauvaises décisions à une époque.
François ?
Oui, moi personnellement j'ai quand même des souvenirs aussi pour les mêmes raisons que Christian. Des souvenirs très précis et pas très agréables de ces moments-là. Et je dois dire que toute une certaine gauche n'a osé rien dire parce qu'ils avaient intérêt à fermer leur gueule. Parce que si on allait très loin, moi je me rappelle bien quand même des histoires de toutes les façons qu'on a eues d'argumenter chez une certaine gauche pour ne pas discuter, pour ne pas avancer en direction de la paix en Algérie. Mmh. Et effectivement, y compris dans les tortures, c'est évident qu'il y a un certain nombre de gens qui s'étaient au courant, tous les gens qui tournaient dans les sphères de l'État, quelle que soit leur couleur, et qu'évidemment, ils étaient sans doute un peu gênés de peur de l'effet boomerang que ça risquait d'entraîner. Quoi.
Oui, puis les témoins de cette époque-là sont toujours en vie. Il y a toujours des gens, peut-être encore, qui étaient responsables à une époque.
Plus vraiment, mais c'est pas très vieux. Quoi.
Non, mais il y a peut-être encore des gens qui ont peut-être des mains qui ont trempé dans des trucs pas trop clairs et qui sont toujours en vie. Hein.
Non, puis la gauche molle, enfin celle qui est issue de la SFIO, de l'après-guerre. Mitterrand a été ministre de l'Intérieur, Mitterrand a envoyé des CRS, donc quelque part il n'est pas non plus tout propre sur cette période-là. Et paradoxalement, c'est De Gaulle quand même qui effectivement a conduit vers une sortie du conflit. Hein. Ouais. Donc ça reste vraiment très très paradoxal. Effectivement, on peut aller plus loin. Les gens de droite ont y compris fait sortir la France de ce conflit. Bon, sur la façon,
pas d'extrême droite.
Et pas d'extrême droite.
Si mes souvenirs sont bons.
Mais d'ailleurs, De Gaulle était le personnage le plus haï de l'extrême droite de l'OS. Ouais, c'était la cible prioritaire. Alors que la gauche molle, comme je le disais. Bon, il a fallu que Mitterrand s'invente un attentat pour pouvoir faire parler de lui. Alors
si, Christian a parlé tout à l'heure d'un personnage, il a rapidement évoqué ce personnage, puisqu'il s'agit de Henri Alleg.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler, pour les auditeurs peut-être plus jeunes ou qui ne connaissent pas, qui était ce monsieur ?
On a parlé de Maurice Audin, ils ont été arrêtés en même temps. Mmh. Henri Alleg, qui était le directeur d'un journal algérien d'origine.
Alger Républicain.
C'est un journal communiste.
Progressiste, peut-être.
Communiste. Henri Alleg était communiste.
Ah oui, Alleg l'était, mais il me semblait que le journal rassemblait pas uniquement des cocos, mais aussi éventuellement d'autres gens.
Donc ils ont été arrêtés en même temps en Algérie, et ils ont été tous les deux torturés en même temps aussi. Hein. Mmh. Ils se sont même rencontrés dans les couloirs et en mauvais état. Henri Alleg, à ce moment-là, a écrit un livre qui s'appelle « La question ». Et qui était interdit à la vente. Hein.
Ouais.
C'était censuré.
Vendu sous le manteau,
et
peut-être.
Nous, moi, j'avais un grand manteau à l'époque.
T'en étais plein.
Ouais. Et Henri Alleg, après, a continué à écrire notamment une histoire de l'Algérie et quelques documentaires extrêmement intéressants. C'était un type fabuleux. Hein. Ouais. C'était vraiment un homme. Il venait d'ailleurs régulièrement à la 25e heure du livre.
Tout à fait.
Il était vivant.
Ah ouais.
Mais sur cette question-là, on peut rappeler que quand avoir 20 ans dans les oreilles s'est sorti au début des années 70, le film a été pourfendu par les pouvoirs publics. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Et je crois même, pour revenir sur Henri Alec, que c'est un livre qui a fait scandale, bah justement, qui a été censuré. Mais est-ce que ce n'est pas un livre qui a aussi contribué à réveiller un peu les consciences sur ce qui se passe en Algérie ?
Il y a eu deux événements qui ont réveillé un peu les consciences. Il y a eu les articles de Mauriac dans l'Express.
Ouais.
Et ça, la question, parce qu'on a inondé le marché quand même. Hein. Et c'est comme c'était un livre assez court, où il racontait toutes les tortures. Ça a eu beaucoup de succès. Quoi.
Oh, ouais.
Et là, ça a donné ça a fait un rappel de conscience des gens qui ont lu ça à ce moment-là.
Mm-hmm. Autre chose à ajouter sur cette...
Ça me fait rebondir sur une autre info. Il y a eu une restitution. Je crois que c'est un Monet qui a été rendu... je ne me souviens plus du nom de la famille.
Un Renoir. Ouais. Oui, tu as raison.
Donc qui avait été confisqué par les nazis, famille juive, et qui a été rendu ces jours-ci à la petite fille.
Et si on peut faire de l'humour sur des choses quand même très noires, la dame qui a récupéré le tableau va être obligée de le revendre pour payer ce qu'on lui réclame des arts de la direction artistique du ministère de la Culture. Non. Et puis, je ne sais plus, c'est les Américains aussi, je crois, parce qu'ils ont un cabinet spécialisé qui réclame sa dîme pour avoir retrouvé le tableau. Ouais. Donc, elle va le vendre en espérant qu'elle tirera assez pour pouvoir payer tout ce qu'on lui réclame.
Monnaie, oui, je pense que...
Ouais.
Bon, les tableaux comme ça, ils devraient être que dans les musées, hein, moi, je trouve.
Eh oui.
Ça devrait être interdit.
Certes. Tout a un prix et tout se monnaie. Donc, tout s'achète, tout
comme
se vend.
Tout se monnaie.
Voilà, je vous propose de terminer cette émission sur ces petites histoires ou cette grande histoire. On se retrouvera, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Micro Libre. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci François, merci Mouni,
merci
Emmanuel, merci Christian, merci Eric. Salut Alan qui a assuré cette émission.
Salut Alan.
Ça fait un peu au théâtre ce soir.
Et décoraté de Roger Hart.
Absolument.
Et les costumes de Donald Caldwell.
Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
Au revoir.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar.